Chapitre 3. La lutte pour l'existence. Son influence sur la sélection naturelle. Ce terme pris dans un sens figuré. Progression géométrique de l'augmentation des individus. Augmentation rapide des animaux et des plantes acclimatées. Nature des obstacles qui empêchent cette augmentation. Concurrence universelle. Effet du climat. Le grand nombre des individus devient une protection. Rapport complexe entre tous les animaux et entre toutes les plantes. La lutte pour l'existence est très acharnée entre les individus et les variétés de la même espèce, souvent aussi entre les espèces du même genre. Les rapports d'organisme à organisme sont les plus importants de tous les rapports. Avant d'aborder la discussion du sujet de ce chapitre, il est bon d'indiquer en quelques mots quelle est l'influence de lutte pour l'existence sur la sélection naturelle. Nous avons vu, dans le précédent chapitre, qu'il existe une certaine variabilité individuelle chez les êtres organisés à l'état sauvage. Je ne crois pas, d'ailleurs, que ce point ait jamais été contesté. Peu nous importe que l'on donne le nom d'espèce, de sous-espèce ou de variété à une multitude de formes douteuses. Peu nous importe, par exemple, quel rang on assigne aux 200 ou 300 formes douteuses des plantes britanniques, pourvu que l'on admette l'existence de variétés bien tranchées. Mais le seul fait de l'existence de variabilités individuelles et de quelques variétés bien tranchées, quoique nécessaires comme point de départ pour la formation des espèces, nous aide fort peu à comprendre comment se forment ces espèces à l'état de nature. Comment se sont perfectionnées toutes ces admirables adaptations d'une partie de l'organisme dans ses rapports avec une autre partie, ou avec les conditions de la vie, ou bien encore les rapports d'un être organisé avec un autre. Les rapports du pic et du gui nous offrent un exemple frappant de ces admirables co-adaptations. Peut-être les exemples suivants sont-ils un peu moins frappants, mais la co-adaptation n'en existe pas moins entre le plus humble parasite et l'animal ou l'oiseau aux poils ou aux plumes desquels il s'attache. Dans la structure du scarabée qui plonge dans l'eau, dans la graine garnie de plumes que transporte la brise la plus légère, en un mot, nous pouvons remarquer d'admirables adaptations partout et dans toutes les parties du monde organisé. On peut encore se demander comment il se fait que les variétés que j'ai appelées espèces naissantes ont fini par se convertir en espèces vraies et distinctes, lesquelles, dans la plupart des cas, diffèrent évidemment beaucoup plus les unes des autres que les variétés d'une même espèce. Comment se forment ces groupes d'espèces qui constituent ce qu'on appelle des genres distincts et qui diffèrent plus les uns des autres que les espèces du même genre ? Tous ces effets, comme nous l'expliquerons de façon plus détaillée dans le chapitre suivant, découlent d'une même cause, la lutte pour l'existence. Grâce à cette lutte, les variations, quelque faibles qu'elles soient et de quelque cause qu'elles proviennent, tendent à préserver les individus d'une espèce et se transmettent ordinairement à leur descendance, pourvu qu'elles soient utiles à ces individus dans leurs rapports infiniment complexes avec les autres êtres organisés et avec les conditions physiques de la vie. Les descendants auront, eux aussi, en vertu de ce fait, une plus grande chance de persister. Car sur les individus d'une espèce quelconque, nés périodiquement, un bien petit nombre peut survivre. J'ai donné à ce principe, en vertu duquel une variation si insignifiante qu'elle soit se conserve et se perpétue, si elle est utile, le nom de sélection naturelle, pour indiquer les rapports de cette sélection avec celle que l'homme peut accomplir. Mais l'expression qu'emploie souvent M. Herbert Spencer, la persistance du plus apte, est plus exacte et quelquefois tout aussi commode. Nous avons vu que, grâce à la sélection, l'homme peut certainement obtenir de grands résultats et adapter les êtres organisés à ses besoins, en accumulant les variations légères mais utiles qui lui sont fournies par la nature. Mais la sélection naturelle, comme nous le verrons plus tard, est une puissance toujours prête à l'action, puissance aussi supérieure aux faibles efforts de l'homme que les ouvrages de la nature sont supérieurs à ceux de l'art. Discutons actuellement, un peu plus en détail, la lutte pour l'existence. Je traiterai ce sujet, avec les développements qu'il comporte, dans un futur ouvrage. De Candolle l'aîné et Liel ont démontré, avec leur largeur de vue habituelle, que tous les êtres organisés ont à soutenir une terrible concurrence. Personne n'a traité ce sujet, relativement aux plantes, avec plus d'élévation et de talent que M. W. Herbert, doyen de Manchester. Sa profonde connaissance de la botanique le mettait d'ailleurs à même de le faire avec autorité. Rien de plus facile que d'admettre la vérité de ce principe, la lutte universelle pour l'existence. Rien de plus difficile, je parle par expérience, que d'avoir toujours ce principe présent à l'esprit. Or, à moins qu'il n'en soit ainsi, ou bien on verra mal toute l'économie de la nature, ou on se méprendra sur le sens qu'il convient d'attribuer à tous les faits relatifs à la distribution, à la rareté, à l'abondance, à l'extinction et aux variations des êtres organisés. Nous contemplons la nature brillante de beauté et de bonheur, et nous remarquons souvent une surabondance d'alimentation. Mais nous ne voyons pas, ou nous oublions, que les oiseaux qui chantent perchés nonchalamment sur une branche se nourrissent principalement d'insectes ou de graines, et que, ce faisant, ils détruisent continuellement des êtres vivants. Nous oublions que des oiseaux carnassiers ou des bêtes de proie sont aux aguets pour détruire des quantités considérables de ces charmants chanteurs, et pour dévorer leurs œufs ou leurs petits. Nous ne nous rappelons pas toujours que, s'il y a en certains moments surabondance d'alimentation, il n'en est pas de même pendant toutes les saisons de chaque année. L'expression « lutte pour l'existence » employée dans le sens figuré. Je dois faire remarquer que j'emploie le terme de « lutte pour l'existence » dans le sens général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres organisés, et ce qui est plus important, non seulement la vie de l'individu, mais son aptitude ou sa réussite à laisser des descendants. On peut certainement affirmer que deux animaux carnivores, en temps de famine, luttent l'un contre l'autre, à qui se procurera les aliments nécessaires à son existence. Mais on arrivera à dire qu'une plante, au bord du désert, lutte pour l'existence contre la sécheresse, alors qu'il serait plus exact de dire que son existence dépend de l'humidité. On pourra dire plus exactement qu'une plante, qui produit annuellement 1 million de graines, sur lesquelles une seule, en moyenne, parvient à se développer et à mûrir à son tour, lutte avec les plantes de la même espèce, ou d'espèces différentes, qui recouvrent déjà le sol. Le gui dépend du pommier et de quelques autres arbres. Or, c'est seulement au figuré que l'on pourra dire qu'il lutte contre ces arbres. Car si des parasites en trop grand nombre s'établissent sur le même arbre, ce dernier languit et meurt. Mais on peut dire que plusieurs guis poussant ensemble sur la même branche et produisant des graines luttent l'un avec l'autre. Comme ce sont les oiseaux qui disséminent les graines du gui, son existence dépend d'eux. Et l'on pourra dire au figuré que le gui lutte avec d'autres plantes portant des fruits, car il importe à chaque plante d'amener les oiseaux à manger les fruits qu'elle produit pour en disséminer la graine. J'emploie donc, pour plus de commodité, le terme général « lutte pour l'existence » dans ces différents sens qui se confondent les uns avec les autres. Progression géométrique de l'augmentation des individus. La lutte pour l'existence résulte inévitablement de la rapidité avec laquelle tous les êtres organisés tendent à se multiplier. Tout individu qui, pendant le terme naturel de sa vie, produit plusieurs œufs ou plusieurs graines, doit être détruit à quelque période de son existence, ou pendant une saison quelconque, car autrement, le principe de l'augmentation géométrique étant donné, le nombre de ses descendants deviendrait si considérable qu'aucun pays ne pourrait les nourrir. Aussi, comme il naît plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir dans chaque cas lutte pour l'existence, soit avec un autre individu de la même espèce, soit avec des individus d'espèces différentes, soit avec les conditions physiques de la vie. C'est la doctrine de Malthus, appliquée avec une intensité beaucoup plus considérable à tout le règne animal et à tout le règne végétal. Car il n'y a là ni production artificielle d'alimentation, ni restriction apportée au mariage par la prudence. Bien que quelques espèces se multiplient aujourd'hui plus ou moins rapidement, il ne peut en être de même pour toutes, car le monde ne pourrait plus les contenir. Il n'y a aucune exception à la règle que tout être organisé se multiplie naturellement avec tant de rapidité que, s'il n'est détruit, la terre serait bientôt couverte par la descendance d'un seul couple. L'homme même, qui se reproduit si lentement, voit son nombre doubler tous les 25 ans, et à ce taux, en moins de 1000 ans, il n'y aurait littéralement plus de place sur le globe pour se tenir debout. Linné a calculé que si une plante annuelle produit seulement 2 graines, il n'y a pas de plante qui soit si peu productive, et que l'année suivante, les 2 jeunes plants produisent à leur tour chacun 2 graines, et ainsi de suite, on arrivera en 20 ans à 1 million de plants. De tous les animaux connus, l'éléphant, pense-t-on, est celui qui se reproduit le plus lentement. J'ai fait quelques calculs pour estimer quel serait probablement le taux minimum de son augmentation en nombre. On peut, sans crainte de se tromper, admettre qu'il commence à se reproduire à l'âge de 30 ans et qu'il continue jusqu'à 90. Dans l'intervalle, il produit 6 petits et vit lui-même jusqu'à l'âge de 100 ans. Or, en admettant ces chiffres, dans 740 ou 750 ans, il y aurait 19 millions d'éléphants vivants, tous descendants du premier couple. Mais nous avons mieux sur ce sujet que des calculs théoriques. Nous avons des preuves directes, c'est-à-dire les nombreux cas observés de la rapidité étonnante avec laquelle se multiplient certains animaux à l'état sauvage, quand les circonstances leur sont favorables pendant 2 ou 3 saisons. Nos animaux domestiques, redevenus sauvages dans plusieurs parties du monde, nous offrent une preuve plus frappante encore de ce fait. Si l'on avait des données authentiques sur l'augmentation des bestiaux et des chevaux, qui cependant se reproduisent si lentement, dans l'Amérique méridionale et plus récemment en Australie, on ne voudrait certes pas croire aux chiffres que l'on indique. Il en est de même des plantes. On pourrait citer bien des exemples de plantes importées devenues communes dans une île en moins de 10 ans. Plusieurs plantes, telles que le cardon et le grand chardon, qui sont aujourd'hui les plus communes dans les grandes plaines de la Plata et qui recouvrent des espaces de plusieurs lieues carrées à l'exclusion de toute autre plante, ont été importées d'Europe. Le docteur Falconer m'apprend qu'il y a aux Indes des plantes communes aujourd'hui du Cap Comorin jusqu'à l'Himalaya, qui ont été importées d'Amérique nécessairement depuis la découverte de cette dernière partie du monde. Dans ces cas et dans tant d'autres que l'on pourrait citer, personne ne suppose que la fécondité des animaux et des plantes se soit tout à coup accrue de façon sensible. Les conditions de la vie sont très favorables, et en conséquence, les parents vivent plus longtemps, et tous, ou presque tous les jeunes, se développent. Telle est évidemment l'explication de ces faits. La progression géométrique de leur augmentation, progression dont les résultats ne manquent jamais de surprendre, explique simplement cette augmentation si rapide, si extraordinaire, et leur distribution considérable dans leur nouvelle patrie. À l'état sauvage, presque toutes les plantes arrivées à l'état de maturité produisent annuellement des graines, et, chez les animaux, il y en a fort peu qui ne s'accouplent pas. Nous pouvons donc affirmer sans crainte de nous tromper que toutes les plantes et tous les animaux tendent à se multiplier selon une progression géométrique. Or, cette tendance doit être enrayée par la destruction des individus à certaines périodes de leur vie, car autrement, ils envahiraient tous les pays et ne pourraient plus subsister. Notre familiarité avec les grands animaux domestiques tend, je crois, à nous donner des idées fausses. Nous ne voyons pour eux aucun cas de destruction générale. Mais nous ne nous rappelons pas assez qu'on en abat, chaque année, des milliers pour notre alimentation, et qu'à l'état sauvage, une cause autre doit certainement produire les mêmes effets. La seule différence qu'il y ait entre les organismes qui produisent annuellement un très grand nombre d'œufs ou de graines et ceux qui en produisent fort peu, et qu'il faudrait plus d'années à ces derniers pour peupler une région placée dans des conditions favorables, si immense que soit d'ailleurs cette région. Le condor pond 2 œufs, et l'autruche 20, et cependant, dans un même pays, le condor peut être l'oiseau le plus nombreux des deux. Le pétrel fulmar ne pond qu'un œuf, et cependant on considère cette espèce d'oiseau comme la plus nombreuse qu'il y ait au monde. Telle mouche dépose des centaines d'œufs, telle autre, comme l'hippobosque, n'en dépose qu'un seul. Mais cette différence ne détermine pas combien d'individus des deux espèces peuvent se trouver dans une même région. Une grande fécondité a quelque importance pour les espèces dont l'existence dépend d'une quantité d'alimentation essentiellement variable, car elle leur permet de s'accroître rapidement en nombre à un moment donné. Mais l'importance réelle du grand nombre des œufs ou des graines est de compenser une destruction considérable à une certaine période de la vie. Or, cette période de destruction, dans la grande majorité des cas, se présente de bonne heure. Si l'animal a le pouvoir de protéger d'une façon quelconque ses œufs ou ses jeunes, une reproduction peu considérable suffit pour maintenir à son maximum le nombre des individus de l'espèce. Si, au contraire, les œufs et les jeunes sont exposés à une facile destruction, la reproduction doit être considérable pour que l'espèce ne s'éteigne pas. Il suffirait, pour maintenir au même nombre les individus d'une espèce d'arbre, vivant en moyenne un millier d'années, qu'une seule graine fût produite une fois tous les 1000 ans, mais à la condition expresse que cette graine ne soit jamais détruite et qu'elle soit placée dans un endroit où il est certain qu'elle se développera. Ainsi donc, dans tous les cas, la quantité des graines ou des œufs produits n'a qu'une influence indirecte sur le nombre moyen des individus d'une espèce animale ou végétale. Il faut donc, lorsque l'on contemple la nature, se bien pénétrer des observations que nous venons de faire. Il ne faut jamais oublier que chaque être organisé s'efforce toujours de multiplier, que chacun d'eux soutient une lutte pendant une certaine période de son existence, que les jeunes et les vieux sont inévitablement exposés à une destruction incessante, soit durant chaque génération, soit de certains intervalles. Qu'un de ces freins vienne à se relâcher, que la destruction s'arrête si peu que ce soit, et le nombre des individus d'une espèce s'élève rapidement à un chiffre prodigieux. De la nature des obstacles à la multiplication. Les causes qui font obstacle à la tendance naturelle à la multiplication de chaque espèce sont très obscures. Considérons une espèce très vigoureuse. Plus grand est le nombre des individus dont elle se compose, plus ce nombre tend à augmenter. Nous ne pourrions pas même, dans un cas donné, déterminer exactement quels sont les freins qui agissent. Cela n'a rien qui puisse surprendre quand on réfléchit que notre ignorance sur ce point est absolue, relativement même à l'espèce humaine, quoique l'homme soit bien mieux connu que tout autre animal. Plusieurs auteurs ont discuté ce sujet avec beaucoup de talent. J'espère moi-même l'étudier longuement dans un futur ouvrage, particulièrement à l'égard des animaux retournés à l'état sauvage dans l'Amérique méridionale. Je me bornerai ici à quelques remarques pour rappeler certains points principaux à l'esprit du lecteur. Les œufs ou les animaux très jeunes semblent ordinairement souffrir le plus, mais il n'en est pas toujours ainsi. Chez les plantes, il se fait une énorme destruction de graines. Mais d'après mes observations, il semble que ce sont les semis qui souffrent le plus, parce qu'ils germent dans un terrain déjà encombré par d'autres plantes. Différents ennemis détruisent aussi une grande quantité de plants. J'ai observé, par exemple, quelques jeunes plants de nos herbes indigènes semés dans une plate-bande ayant 3 pieds de longueur sur 2 de largeur, bien labourés et bien débarrassés de plantes étrangères, et où, par conséquent, ils ne pouvaient pas souffrir du voisinage de ces plantes. Sur 357 plants, 295 ont été détruits, principalement par les limaces et par les insectes. Si on laisse pousser du gazon qu'on a fauché pendant très longtemps, ou, ce qui revient au même, que des quadrupèdes ont l'habitude de brouter, les plantes les plus vigoureuses tuent graduellement celles qui le sont le moins, quoique ces dernières aient atteint leur pleine maturité. Ainsi, dans une petite pelouse de gazon ayant 3 pieds sur 7, sur 20 espèces qui y poussaient, 9 ont péri, parce qu'on a laissé croître librement les autres espèces. La quantité de nourriture détermine, cela va sans dire, la limite extrême de la multiplication de chaque espèce. Mais, le plus ordinairement, ce qui détermine le nombre moyen des individus d'une espèce, ce n'est pas la difficulté d'obtenir des aliments, mais la facilité avec laquelle ces individus deviennent la proie d'autres animaux. Ainsi, il semble hors de doute que la quantité de perdrix, de grouses et de lièvres qui peut exister dans un grand parc dépend principalement du soin avec lequel on détruit leurs ennemis. Si l'on ne tuait pas une seule tête de gibier en Angleterre pendant 20 ans, mais qu'en même temps on ne détruisit aucun de leurs ennemis, il y aurait alors probablement moins de gibier qu'il n'y en a aujourd'hui, bien qu'on en tue des centaines de mille chaque année. Il est vrai que, dans quelques cas particuliers, l'éléphant par exemple, les bêtes de proie n'attaquent pas l'animal. Dans l'Inde, le tigre lui-même se hasarde très rarement à attaquer un jeune éléphant défendu par sa mère. Le climat joue un rôle important quant à la détermination du nombre moyen d'une espèce. Et le retour périodique des froids ou des sécheresses extrêmes semble être le plus efficace de tous les freins. J'ai calculé, en me basant sur le peu de nids construits au printemps, que l'hiver de 1854-1855 a détruit les 4/5 des oiseaux de ma propriété. C'est là une destruction terrible, quand on se rappelle que 10% constitue pour l'homme une mortalité extraordinaire en cas d'épidémie. Au premier abord, il semble que l'action du climat soit absolument indépendante de la lutte pour l'existence. Mais il faut se rappeler que les variations climatiques agissent directement sur la quantité de nourriture et amènent ainsi la lutte la plus vive entre les individus, soit de la même espèce, soit d'espèces distinctes, qui se nourrissent du même genre d'aliments. Quand le climat agit directement, le froid extrême par exemple, ce sont les individus les moins vigoureux ou ceux qui ont à leur disposition le moins de nourriture pendant l'hiver qui souffrent le plus. Quand nous allons du sud au nord, ou que nous passons d'une région humide à une région desséchée, nous remarquons toujours que certaines espèces deviennent de plus en plus rares et finissent par disparaître. Le changement de climat frappe en nos sens. Nous sommes tout disposés à attribuer cette disparition à son action directe. Or, cela n'est point exact. Nous oublions que chaque espèce, dans les endroits mêmes où elle est le plus abondante, éprouve constamment de grandes pertes à certains moments de son existence, pertes que lui infligent des ennemis ou des concurrents pour le même habitat et pour la même nourriture. Or, si ses ennemis ou ses concurrents sont favorisés si peu que ce soit par une légère variation du climat, leur nombre s'accroît considérablement, et comme chaque district contient déjà autant d'habitants qu'il peut en nourrir, les autres espèces doivent diminuer. Quand nous nous dirigeons vers le sud et que nous voyons une espèce diminuer en nombre, nous pouvons être certains que cette diminution tient autant à ce qu'une autre espèce a été favorisée qu'à ce que la première a éprouvé un préjudice. Il en est de même, mais à un degré moindre, quand nous remontons vers le nord, car le nombre des espèces de toutes sortes, et par conséquent des concurrents, diminue dans les pays septentrionaux. Aussi rencontrons-nous beaucoup plus souvent en nous dirigeant vers le nord ou en faisant l'ascension d'une montagne que nous ne le faisons en suivant une direction opposée, des formes rabougries dues directement à l'action nuisible du climat. Quand nous atteignons les régions arctiques ou les sommets couverts de neiges éternelles ou les déserts absolus, la lutte pour l'existence n'existe plus qu'avec les éléments. Le nombre prodigieux des plantes qui, dans nos jardins, supportent parfaitement notre climat, mais qui ne s'acclimatent jamais parce qu'elles ne peuvent soutenir la concurrence avec nos plantes indigènes ou résister à nos animaux indigènes, prouve clairement que le climat agit principalement de façon indirecte en favorisant d'autres espèces. Quand une espèce, grâce à des circonstances favorables, se multiplie démesurément dans une petite région, des épidémies se déclarent souvent chez elle. Au moins, cela semble se présenter chez notre gibier. Nous pouvons observer là un frein indépendant de la lutte pour l'existence. mais quelques-unes de ces prétendues épidémies semblent provenir de la présence de vers parasites qui, pour une cause quelconque, peut-être à cause d'une diffusion plus facile au milieu d'animaux trop nombreux, ont pris un développement plus considérable. Nous assistons en conséquence à une sorte de lutte entre le parasite et sa proie. D'autre part, dans bien des cas, il faut qu'une même espèce comporte un grand nombre d'individus relativement au nombre de ses ennemis pour pouvoir se perpétuer. Ainsi, nous cultivons facilement beaucoup de froment, de colza, etc. dans nos champs, parce que les graines sont en excès considérable, comparativement au nombre des oiseaux qui viennent les manger. Or, les oiseaux, bien qu'ayant une surabondance de nourriture pendant ce moment de la saison, ne peuvent augmenter proportionnellement à cette abondance de graines, parce que l'hiver a mis un frein à leur développement. Mais on sait combien il est difficile de récolter quelques pieds de froment ou d'autres plantes analogues dans un jardin. Quant à moi, cela m'a toujours été impossible. Cette condition de la nécessité d'un nombre considérable d'individus pour la conservation d'une espèce explique, je crois, certains faits singuliers que nous offre la nature. Celui, par exemple, de plantes fort rares qui sont parfois très abondantes dans les quelques endroits où elles existent. Et celui de plantes véritablement sociables, c'est-à-dire qui se groupent en grand nombre aux extrêmes limites de leur habitat. Nous pouvons croire en effet, dans de semblables cas, qu'une plante ne peut exister qu'à l'endroit seul où les conditions de la vie sont assez favorables pour que beaucoup puissent exister simultanément et sauver ainsi l'espèce d'une complète destruction. Je dois ajouter que les bons effets des croisements et les déplorables effets des unions consanguines jouent aussi leur rôle dans la plupart de ces cas. Mais je n'ai pas ici à m'étendre davantage sur ce sujet.